recevons ce matin 5 auteurs, autant de temporalité et d'espace, pour nous dire ce qu'il en est de naître, d'aimer, de vivre, de mourir. Pour chaque roman, il y a un pronom, une voix, une façon et une patte bien personnelle. C'est sûrement pour cela que vous avez été choisis. Et donc vous faites jaillir des personnages qui sont tout pour le moins très intéressants. Et donc nous allons voyager en 5 endroits au Maroc avec Soufiane Kaloua pour la vallée des Lazards, au Québec avec Isabelle Amounou pour l'Enfant Rivière, à Notre-Dame-des-Landes avec François Despenoux et son roi nu-pied, sur le périph' parisien avec Philippe Lafitte et son roman Périphérie. Et puis quelque part, dans une prison, on ne sait pas où, on verra. Donc avec les clés du couloir et son autrice étant Fanny Saint-Aunoy. Voilà. Alors, nous allons commencer par Soufiane, votre roman, La vallée des Lazards. Je vais faire des résumés des livres et puis ensuite on passera aux questionnements. Amir Ayabi raconte à sa petite fille un pan de son histoire familiale. Cet été-là, Amir avait 20 ans. Il est né en France. Son père et lui sont revenus après 6 ans d'absence. La terre de leurs ancêtres est la vallée des Lazards, au Maroc, à la frontière algérienne. Une terre très aride, très rude, une région montagneuse. Alors qu'il voit son père reprendre sa place avec autant d'aisance et de normalité, il peine, lui, Amir, à la trouver. Cette vallée, il la connaît très peu. Il maîtrise mal les codes et les usages, ni même la langue. Ce savoureux sabir de français, d'arabe, de berbère et d'espagnol. Il est un étranger de leur sang, dites-vous. Il lui faut apprendre à légitimer sa place. Amir raconte pour ne pas oublier d'où l'on vient, car comme vous l'écrivez, les terres s'oublient si l'on n'y prend pas garde, que rien ne subsiste de nous, ni de nos parents. Cet été-là, donc, Amir et son père sont revenus au pays pour le mariage de sa cousine Farah. Dans cette vallée, il y a deux clans, les Ayami et les Ogbani. Le clan Ayami s'est appauvri, la diaspora et la sécheresse ont fait leur œuvre. C'est une famille déchue qui ne fait plus partie de la noblesse crasseuse de ces montagnes pauvres et arides, comme vous les décrivez. Les Ogbani sont riches et se comportent en aristocrates. Et les deux clans se vouent une haine ancestrale. Et pour autant, c'est un Ogbani, Ayoub, que Farah, la cousine, va épouser. Une R18 brinque-ballante fait son entrée tonitruante chez les Ayami. C'est Haroun, l'enfant prodigue, le frère de Farah et le cousin préféré d'Amir, du narrateur. Haroun revient après 3 ans d'absence. 3 ans pendant lesquels on ne sait pas ce qu'il a fait, si ce n'est sûrement les 400 coups. Et il a fait du trabendo. Alors, trabendo, c'est, j'ai pris grâce à vous, que c'était le trafic entre le Maroc et l'Algérie, peut-être entre autres pays. Je ne sais pas si c'est typiquement marocain, mais...
C'est typiquement frontalier, c'est de la contrebande. Entre,
voilà,
On passe d'une frontière à l'autre pour vendre des marchandises.
Mmh. Mais c'est pas typique au Maroc et à l'Algérie, ça peut être...
Non. Ouais,
d'accord. Donc Haroun est un garçon solaire, fougueux, drôle et talentueux. C'est un fantastique menteur et un égoïste. Il est fou amoureux de la belle Férouz, une fille Ogbani. Un Ayami amoureux d'une Ogbani. Cet été-là est l'occasion pour Amir de découvrir les secrets, les mensonges, les vérités et les vérités de la vallée. Il faut dire que la vallée est hautement romanesque. À l'ouest, les Ayami. À l'est, les Ogbani, et au milieu, devinez quoi, le cimetière. Le cimetière commun. Donc, dans cette vallée, on y étend les yeux comme dans un western. Alors, cette expression, on y étend les yeux, c'est votre narrateur qui l'a dit. Ici, on se hait profondément, mais on n'oublie pas qu'on est tous pareils, où on est, N-A-I, accent circonflexe T, du verbe net, on est, on meurt. On joue une comédie avec la haine comme artifice. On est tour à tour voisin, ami, ennemi, amoureux, avec l'hospitalité comme politesse de la haine. La vallée est davantage qu'une terre, elle est une et unique. Elle est immuable et éternelle. Elle possède une vérité inaccessible à qui n'y vit pas. Ici, on n'est pas marocain, on est Lazari. C'est un roman beau et lumineux que vous nous offrez, fort et puissant sur les origines, les transgressions et la transmission. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le dernier mot, le mot « fin », qu'on trouve rarement dans les romans. Et vous terminez donc avec ce mot, comme peut-être pour nous rappeler que, en fait, tout ça n'est finalement qu'une histoire, une histoire de celle qu'on nous raconte pour grandir. Merci pour votre livre.
Merci à vous. Merci à vous.
Merci, c'est gentil, mais... Alors, allons maintenant au Québec avec Isabelle Amounou et son enfant Rivière. Alors, votre roman nous mène au Québec sur les berges de la rivière Outaouais. Cette rivière est le principal affluent du Saint-Laurent. Elle fait frontière entre le Québec et l'Ontario. Elle fait frontière entre le français et l'anglais également. Dès le début, vous ouvrez votre histoire avec une violence terrible. Zoé chasse dans la forêt. Rien de plus banal, si ce n'est que la forêt est truffée de pièges et que son gibier est humain. Un garçon, 10 ans environ. Mais ce n'est pas celui qu'elle aurait voulu trouver. Zoé est chasseuse de primes et possède une petite marina au bord de l'Outaouais. La rivière est centrale dans votre roman. Elle se fait tour à tour nourricière et meurtrière, amoureuse et haineuse, majestueuse et impavide. À l'image de Zoé. La situation politique et climatique est catastrophique. Le Canada reçoit un afflux massif de réfugiés états-uniens. Le gouvernement canadien tente de réguler le flot, mais les réfugiés, les migrants, sont toujours plus nombreux et dangereux. Ils s'organisent en bandes, notamment les jeunes. Un mur entre l'Alaska et le Canada a même été construit, avec 500 km de barbelés et de fossés. Zoé chasse les migrants pour les remettre au gouvernement. 1 000 $ pour un enfant et 1 500 $ pour une femme enceinte, je crois. C'est charmant. Il y a 6 ans de cela, le fils de Zoé et de Nathan, et de Thomas, qui s'appelle Nathan, a disparu, probablement englouti par la rivière ou par la forêt. Tom et Zoé ont mené une quête obsessionnelle. Au lieu de s'unir pour supporter l'absence et le manque de leur fils, ils se sont éloignés, se renvoyant la faute. Tom est parti en France. Zoé est restée et a continué à chercher. Tom revient pour enterrer son père. Il revient comme pour rétablir un certain équilibre. Il est devenu orphelin, mais il n'y a pas de mots pour dire qu'il n'a plus de fils. Pour Zoé, il est vivant. Pour Tom, il est mort. Mais Tom ne veut pas de la folie de Zoé. Ils sont tous les deux totalement antinomiques. Ils auraient pu se faire une autre vie. Tom a vécu d'autres frontières, d'autres villes, mais il reste une part de lui à Gatineau. Zoé s'est construite douloureusement, entre un père incestueux et une mère alcoolique, incapable de donner de l'amour. Zoé porte en elle les stigmates de ses ancêtres. Elle en porte les manques et les marques. C'est ce que vous dites. Camille, la mère de Zoé, s'appelle en fait Kimi. Elle est algonquine. Elle a été envoyée dans un pensionnat pour y être acculturée. On l'a coupée de ses cultures, de sa langue, de ses ancêtres. On a tué l'indienne, on a tué la femme. Isabelle, vous construisez ce roman comme une quête pour se pardonner, se reconstruire, s'inventer une autre vie. Voici donc un roman noir et lumineux, une dystopie très habilement construite et inventive qui tient en haleine. Votre écriture est très fine, sensible, émouvante. Je vous remercie de ce plaisir de lecture.
Merci beaucoup.
C'est gênant que vous applaudissiez quand même. Hein,
c'est super.
On applaudit les romans.
Vous applaudissez les romans. Alors, allons à Notre-Dame-des-Landes avec, c'est bien celui-là, avec François Despenou. Despenou ou Despenou ?
Despenou.
Eric, le narrateur, s'adresse à son fils. Eric est publiciste en freelance et peut mesurer sa vie à l'aune du triptyque ultra-libéralisme, ultra-consumérisme et pognon de dingue. En vacances à Lacanau, il voit son fils aîné Nils débarquer. C'est un marginal, le roi nu-pied dans toute sa splendeur. Un roi qui a l'apparence et le fumet d'un punk à chien. Autant dire que le fils est l'antithèse du père, qui marche sur des œufs et tourne 7 fois sa langue dans sa bouche, par peur de le contrarier. Quand un altermondialiste radical et un publiciste arrivé essaient de communiquer, alors fatalement les petits accrochages vont tourner à l'affrontement. L'orage gronde petit à petit. La désinvolture du fils pousse son père excédé à le virer. Alors, le lien, les contacts sont rompus, étant donné qu'il a été viré. 2 ans plus tard, c'est Eric, le père, qui est viré de son boulot. Il s'enfonce dans la dépression, et au fur et à mesure que l'argent manque. Quand sa femme le quitte, Eric va tenter de retrouver Nils dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mais est-ce là bien sa place ? À condition de ne pas porter l'uniforme, vous dites, tout à sa place, les végétaux, les animaux et les humains. Eric doit s'acclimater à l'endroit, à la nature, et se rend compte à quel point il est citadin. Car la nature, ce n'est pas qu'un champ de petites fleurs et des gazouillis d'oiseaux, c'est aussi du bruit, du froid, de l'humidité. Il pourrait repartir, mais il se sent comme aimanté par le lieu et s'habitue petit à petit. Vous dites de lui qu'il est loin d'être dans la communauté, mais commence à être dans la communion. Il regarde son fils de loin, en ressent une grande fierté. Il entre dans sa vie par effraction, tout en revenant à la vie dans ce qu'elle a de meilleur. Il apprend à se nourrir, plutôt que manger, à écouter, à ressentir, à regarder. Mais quel est le prix pour cela ? Sommes-nous tous complices de la violence envers des gens dont le seul tort est de rejeter le consumérisme et vouloir faire vivre en harmonie nature, animal et homme? Et vous comparez poétiquement la nouvelle vie d'Eric avec l'art japonais du kintsugi, K-I-N-T-S-U-G-I, si je prononce bien le japonais. Alors cet art consiste à réparer des céramiques avec de la laque végétale et de l'or. Les objets en deviennent encore plus beaux, les personnages aussi. Beau à la mesure de votre roman, un roman organique qui célèbre le vivant avec beaucoup de classe. Merci.
Merci.
Allons en périphérie avec Philippe Lafitte. Alors, notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise. Et c'est avec cette phrase de Louise Michel que vous citez dans votre roman que je vais commencer la présentation. Car il s'agit bien de combat et de place que vous traitez ici. Ils sont 3 à se battre pour leur survie. 3 identités, 3 exclus, 3 combats, 3 périphéries. Un bidonville en bordure d'autoroute à la lisière de Gennevilliers. Une cité HLM et son école Louise Michel, une cité en Roumanie, Buzescu, où sont construites les folles demeures de la maigre élite rome. C'est juste une rue et on appelle ça le Disneyland des Roms.
C'est devenu ça. Oui.
Ici et là-bas, la vie est froide, cruelle, noire. Elle guette, elle sourd, elle n'est jamais riante. Virgile a 20 ans. Il est à la tête du clan de Rome du bidonville. Ils sont roumains, mais roms avant tout, donc indésirables et condamnés à partir. Virgile se sculpte, se forge un corps à la force de ses muscles, à la force de ses rêves. Rentrer à Buzescu avec son clan, revenir en roi et y construire son palais. Mais pour emmener 40 personnes, il lui faut un autocar, et pour avoir un autocar, il faut de l'argent, et beaucoup d'argent. Alors Virgile va dealer et empiéter sur le territoire de Nourri, le caïd local, tyran domestique, maître de sa loi et de son orgueil. Yasmine, elle, sœur de Nourri, rêve de s'échapper de la Sainte Trinité domestique, virginité, honneur, enfermement. Je vous cite. Son obsession, c'est de se soustraire à l'emprise, échapper à la prison que lui dresse son frère au nom d'un dieu. Elle rêve de deux syllabes infranchissables, Paris. Et puis, il y a Léna, la jolie fiancée de Virgile, restée au pays, dont l'avenir n'a rien de radieux. Elle est malade, et le souvenir de Virgile se fade petit à petit. Virgile est effrontément libre, telle la branche souple, c'est le sens de son prénom, il ne casse pas. Son mantra, ne jamais commencer la bagarre, toujours finir le combat. Pour eux trois, le combat est rude, l'adversaire coriace, le monde n'est que violence et cynisme. Peuvent-ils croire encore aux contes de fées et aux histoires magiques ? Ils luttent pour refuser les diktats, les oukases, le déterminisme auquel ils sont assignés. Et c'est là la force de votre roman. Et car malgré toute la palette de noir avec laquelle vous peignez, il y a une trouée de lumière qui vacille et ne s'éteint pas. Merci pour ce roman. Et nous terminons cette présentation avec les clés du couloir de Fanny Saint-Aunois. Petra fut dans une autre vie poète, traductrice et enseignante. Elle écrit. Elle écrit des lettres à un homme qu'elle a aperçu dehors. Dehors, c'est la cour de la prison. Un dehors enfermé. Quel crime a-t-elle commis ? Et lui, quel crime a-t-il commis ? Elle est athée, il est juif homosexuel. Dans ce pays, à cette époque, peut-être pas si loin que ça, on ne tolère que les citoyens religieux. Les déviants sont enfermés pour être redressés. On ne sait pas où ni quand on est. Nos repères, tout comme ceux des personnages, sont brouillés. Alors on entre petit à petit dans un roman noir d'anticipation, une dystopie. Écrire est totalement interdit, mais Petra va transgresser les règles en se servant d'une jeune novice, Constance, pour faire passer ses lettres à l'homme du bâtiment H. H comme homosexuel. Il y a aussi AH comme les athées homosexuels.
Les pires.
Les pires. La force de Petra, c'est son langage. Écrire comme survivre, écrire comme résister, écrire comme rester humaine. Sa raison de vivre, c'est sa passion des mots et sa passation. En effet, elle va offrir des mots, les dire et les chanter tout bas en cachette à Constance. Les mots murmurés, chuchotés à la jeune fille vierge lui ouvrir les portes du plaisir et du désir. Ferré, Brel, Higelin, Barbara sont tour à tour convoqués, comme pour prendre au piège la jeune novice. Des mots d'une autre époque, d'une autre planète. Constance implore un dieu miséricordieux de lui pardonner le péché, de transgresser la loi. Elle est ensorcelée par les mots, Petra et son diable. Le roman est construit à deux voies, celle de Petra avec ses lettres pour l'homme, et celle de Constance, prise au piège. Alors Isabelle Amounou, je me suis trompée de prénom, Fanny Saint-Aunois, pardon, vous montrez le pouvoir et l'emprise des mots. Il suffirait à Petra de dire qu'elle choisit Dieu pour être libérée. Mais ce serait se trahir, s'humilier, car avec Dieu il y a son pendant, le diable. Elle sait que croire est un écran de fumée et une soif de pouvoir, dites-vous. Et Constance, comment va-t-elle se libérer de l'emprise du noviciat ? Y a-t-il une issue ? Un roman fort et lyrique qui interroge d'une très belle manière notre liberté et l'urgence qu'il y a à la choyer, à la conserver. Voilà, merci. Et voilà, on peut y aller. Non, on va laisser maintenant nos auteurs discuter. Alors, surtout, n'hésitez pas à intervenir, à vous couper, peut-être pas vous couper la parole, parce qu'on est, des adultes, mais n'hésitez pas à intervenir. Alors, et bien comme j'ai terminé par vous, je vais recommencer par vous. Alors, il y a un auteur qui s'appelle James Baldwin, que j'affectionne tout particulièrement, qui dit qu'on ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais que rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. Alors, qu'est-ce que vous en dites?
C'est un peu
vous avez, vous avez 4 heures. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément... Quel combat y a-t-il, justement, à défendre ce qu'on a?
Mes deux personnages combattent, les deux femmes, Petra et Constance. Elles combattent d'une façon complètement différente. Petra, vous l'avez dit, elle lutte avec ce qui lui reste d'humanité qu'elle considère être tout simplement les mots, la poésie, les restes de paroles, de chansons qu'elle aime passionnément. Et c'est sa façon de résister et aussi de tenir en vie, de tenir le coup. Et aussi pour elle de rester humaine. Mm-hmm. Et c'est sa façon d'affronter... si je reprends les mots,
oui, bien sûr.
C'est sa façon d'affronter cette terrible réalité dans laquelle elle est plongée, surtout qu'elle raconte qu'elle a vu venir, mais qu'elle n'a pas été active, qu'elle n'a pas été militante, qu'en gros elle s'est laissée porter comme ça. Et quant à la jeune Constance, au début elle est complètement enfermée dans ce diktat, dans la situation de geôlière. Finalement, on se rend compte que la geôlière est encore plus enfermée que la prisonnière, puisqu'elle n'a aucune liberté de penser, ni de s'émouvoir, ni d'avoir des émotions, des sentiments. Mmh. Et donc, cette jeune Constance, elle va affronter, elle, d'une certaine façon, sa la prise d'un début de liberté et de réussir à commencer à réfléchir sur son parcours, sur la façon dont elle a été éduquée ou surtout pas éduquée d'ailleurs. Et puis elle va commencer à saisir, grâce aux mots murmurés par Petra, elle va commencer à... Il y a des petites lumières qui s'allument dans sa tête pour s'élever autrement et même réfléchir sur... sur sa foi, sur sa croyance, parce qu'elle n'abandonne pas ça non plus. Elle ne devient pas, j'ai pas voulu en faire à la fin du livre, je dis rien. Voilà,
oui, ne parlez pas de la fin, mais
non.
Parce que c'est un... ça serait dommage.
C'est mon seul livre avec du suspense un peu.
Ah bon, mais vous avez écrit quoi d'autre en fait? Vous avez écrit que des romans noirs dystopiques?
Pas du tout, pas du tout. Heureusement, sinon je n'aurais pas le moral comme ça. Non, j'ai écrit cinq livres, donc c'est le cinquième. J'ai écrit trois romans et un recueil de nouvelles, et puis un roman à quatre avec trois autres camarades qui étaient primo-romanciers comme moi en 2011.
D'accord.
Et j'essaye de changer de... sujet à chaque fois et de ne pas être dans la même ambiance. Après, on garde sûrement un ton.
Oui.
Un ton et une ambiance. Mais...
Bien. Voilà. Donc, affronter le monde. Alors, comment, par exemple, un jeune franco-marocain qui connaît rien de son pays, peut-il affronter le monde qui est normalement sa famille? A-t-il sa place?
Alors la citation, je la rapprocherai plutôt d'un autre personnage qui s'appelle Haroun, qui a grandi dans cet endroit et qui est parti à l'aventure vers l'Est, qui a traversé la frontière pour aller en Algérie. Ah pardon, oui. Donc je la rapprocherai d'un personnage donc, qui a grandi dans cet endroit, dans cette vallée à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, et qui a décidé de partir à l'aventure vers l'Est, qui a traversé la frontière pour aller en Algérie. Il a erré là-bas pendant 3 ans. Et on découvre petit à petit que finalement, il voulait évidemment aller plus loin. Il n'a pas pu aller plus loin parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas traverser une autre frontière parce qu'il avait laissé quelque chose derrière lui. Il avait des choses à régler là où il a grandi, en fait. Et que là où il a grandi, c'est dans une vallée où il appartient à un versant et à une famille. De l'autre côté, il y a une autre famille sur l'autre versant. Et entre les deux versants, vous l'avez dit, il y a un cimetière, il y a aussi une piste, et une petite piste pour les voitures. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il a grandi avec cette frontière-là. Déjà, en Pendant toute sa jeunesse, il ne pouvait pas aller de l'autre côté de sa propre vallée. Et ça a dressé des frontières dans sa tête. Et il a eu beau partir en Algérie, en fait, il fallait qu'il revienne pour se libérer. Et à ce moment-là, finalement, il avait tenté la fuite et il doit revenir pour affronter quelque chose qu'il n'a pas vraiment réglé. Mmh. Et concernant le narrateur, c'était quoi la citation ?
la citation de Baldwin.
Oui, oui, oui.
On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas.
Oui, alors lui, il s'affronte lui-même finalement, parce que le narrateur va dans cet endroit qui est un héritage pour lui, c'est l'endroit d'où vient son père, et c'est c'est un endroit où il est allé plusieurs fois quand il était plus jeune, mais il doit. En arrivant là-bas, il se rend compte qu'il doit s'adapter, il doit s'approprier toute une identité qu'il ne connaît pas et qu'il est censé connaître. Il y a un sentiment d'étrangeté, en fait, il y a presque une culpabilisation parce que tous les membres de sa famille agissent comme s'ils devaient connaître absolument tous les codes. C'est un endroit qui est très codifié avec des coutumes vraiment ultra locales. Mais lui ne connaît rien, il n'a pas grandi là-bas. Et en fait, c'est comme s'il devait faire partie d'eux alors qu'il ne connaît absolument rien de cet endroit. Et il y a tout un apprentissage, puisque c'est d'une certaine manière c'est un roman d'apprentissage, il y a tout un apprentissage des codes, qui passe aussi avec la langue. L'apprentissage de la langue lui permet de s'emparer d'une mentalité, d'une manière de réfléchir, d'une manière d'être. Et c'est un affrontement parce que c'est un combat, ça demande des efforts de grandir et de s'approprier quelque chose.
Oui, c'est vraiment un roman d'anticipation en fait. De construction.
Oui, d'apprentissage.
D'apprentissage. Voilà.
Oui, oui. Ouais. D'une certaine manière, oui, c'est un roman d'apprentissage parce qu'il doit essayer de trouver un équilibre entre un héritage et ce qu'il est. Et c'est un apprentissage des codes, des signes. C'est un apprentissage des signes.
Oui, alors ça me fait rebondir sur votre roman, François Despenaud, l'apprentissage des codes, des signes. Parce que Notre-Dame-des-Landes, en fait, c'est un monde très, très clos, à part. Donc, c'est surprenant que vous fassiez venir le père. Comment vous êtes venu, justement, cette idée de roman ? Comment sont nés ces personnages ?
Je ne suis pas allé chercher loin, s'il s'agit de mon fils. Voilà, donc ensuite, évidemment, on puise dans un vécu, dans une réalité qu'on connaît bien, et on bascule dans la fiction et dans l'extrapolation et dans le roman, c'est-à-dire que l'histoire du père qui ensuite va retrouver son fils à Notre-Dame-des-Landes, tout ça a été inventé. Mais j'avais évidemment une matière magnifique qui était mon propre fils qui vit depuis 8 ans à Notre-Dame-des-Landes dans une cabane sans eau, sans électricité, et qui lui affronte à sa façon la société consumériste, cette fuite en avant folle qu'il rejette, et pour vivre en harmonie, pour se fondre dans la nature et vivre en harmonie avec la nature. C'est un livre qui est sur fond d'écologie et de nature, un livre aussi sur la filiation, et c'est ce que j'ai voulu raconter, c'est-à-dire la façon dont on suit à des générations différentes des chemins différents. Il ne s'agit pas, ensuite on peut se faire une idée de Notre-Dame-des-Landes, mais j'ai voulu montrer de cette communauté, de cette utopie, quelque chose, autre chose que ce qu'on en montre trop souvent, c'est-à-dire des projets, des choses intéressantes, des gens qui ont une véritable envie de changer les choses, et pas seulement des gens crasseux au fond d'une cabane qui sont uniquement dans le rejet de tout, c'est-à-dire qu'il y a une vision qui a été très caricaturée de tout ça, et j'ai trouvé ça intéressant, à travers la relation entre un père et un fils, de montrer aussi cette réalité. Donc lui, son affrontement, c'est un peu un affrontement par défaut, c'est-à-dire qu'il vit en creux, il veut être zéro émission carbone, il veut vivre sans marquer trop de son empreinte humaine, cette planète, ce qui a suffisamment souffert. Et donc, bien sûr, ensuite, c'est une question de génération, ce sont deux êtres qui ont vécu d'autres choses, qui n'ont pas les mêmes codes. Et là où ils se rejoignent et se réapprivoisent et ne redeviennent plus seulement des pères, un père et un fils, mais deux humains qui ont choisi des voies différentes, c'est que le père lui-même connaît la jungle économique, celle-là. Mmh. C'est-à-dire que tout à coup, cet homme qui est dans des codes, effectivement, un peu de réussite, telle qu'on peut la connaître, la bourgeoisie, l'argent, les signes extérieurs de richesse, ce type, un peu comme dans le film très bien de Junio qui s'appelait Une époque formidable, ce type, à la soixantaine, dévisse complètement dans ce monde archi-frelaté et artificiel qu'est la publicité, que je connais bien, et il dévisse, il est rejeté, il perd ses codes, il perd ses repères, et tout se dérobe sous ses pieds, et le seul dont il se dit qu'il ne le jugera pas, c'est son fils. Ce fils qu'il a chassé de chez lui 2 ans auparavant. Donc, en fait, il se dit, le seul qui va peut-être me recueillir, eh ben, c'est ce garçon un peu marginal, Zadis, qui vit dans une cabane et qui va les retrouver. Je ne dis pas la fin, savoir comment ça se passe entre eux, mais ce qui est certain, c'est que tout à coup, ces deux-là se retrouvent sur un pied d'égalité et vont se réapprivoiser, alors au prix de pas mal de difficultés, hein, parce que ce n'est pas simple, mais en tout cas, ils vont tenter de se comprendre malgré leurs différences, malgré leur âge différent. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est de mettre en balance une jungle qui peut être la jungle naturelle, parce que tout n'est pas rose à Notre-Dame-des-Landes, y compris dans la nature, où il fait parfois froid, humide, où il y a aussi des dissensions entre communautés et entre zadistes. Et puis la jungle économique, qui est d'une violence absolue, surtout en ce moment, je trouve. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir tout à coup ces deux jungles mises un petit peu en parallèle.
Oui. Et donc, en fait, vous êtes allé vous-même, c'est peut-être la question un peu bébête que j'ai posée.
Pas du tout.
Est-ce que vous avez été dans la ZAD?
Non, parce que ça l'embarrassait. Je ne voulais pas débarquer comme ça. En fait, j'ai écrit entièrement ce livre à travers des témoignages, des articles, ce qu'il m'en avait dit lui-même, et énormément de reportages. Je ne voulais pas écrire un livre, parce qu'il se trouve que c'est la ZAD, mais ça aurait pu être autre chose. Mm-hmm. C'est aussi un livre sur la filiation et ce moment où un enfant peut vous échapper. Mais je me suis beaucoup renseigné pour ça. Internet est très bien fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. J'ai imaginé des choses. Peut-être que c'était aussi ce qui m'intéressait, c'était pas de faire une espèce de reportage, parce que beaucoup ont été faits d'ailleurs très bien sur la ZAD, c'était de la raconter à travers une fiction, à travers des personnages, à travers un roman. J'ai demandé à mon fils l'autorisation d'écrire ce livre. Je voulais pas qu'il soit gêné par ça, mais il a été d'accord. Et avant d'envoyer les épreuves corrigées à mon éditeur, je lui ai envoyé en lui demandant s'il y avait la moindre chose qu'il mettait en porte-à-faux ou qu'il gênait ou qu'il embarrassait. Il a été assez fair-play, il m'a dit « ça c'est un roman, tu donnes ta réalité de la ZAD, qui est une réalité assez positive et qui en donne une image peut-être un peu édulcorée parfois à son goût, mais en tout cas différente de ce qu'on en donnait d'habitude comme vision ». Et il n'a pas touché une virgule. Et finalement, le seul moment où j'ai mis les pieds à la ZAD, en reconnaissant d'ailleurs les lieux que j'avais décrits dans mon roman, c'est quand je lui ai apporté, ce qui était un moment quand même assez émouvant, quand je lui ai apporté ce livre dans sa cabane. Et j'ai vu mon roi nu-pied sortir hirsute, pieds nus bien entendu, de ses bois, de sa cabane, de la serre qu'il a fabriquée avec des vieux châssis de fenêtres, tout ce que je raconte, où il cultive
les meilleures tomates du monde.
Les meilleures tomates du monde, des poireaux et des choses un petit peu moins légales. Voilà, et puis c'était génial de se retrouver à ce moment-là. Et je dois dire que ça a beaucoup fait pour apaiser nos relations, parce qu'on ne s'est pas toujours très très bien compris ou bien entendu. Et le fait est que, évidemment, c'est une déclaration d'amour à un fils à travers un sujet qui me paraît être un sujet actuel.
Oui.
Donc c'était ça qui m'apportait. C'est un moment où tout concorde, où le personnel peut devenir universel. C'est le but, je pense, tous ensemble de ce qu'on fait, c'est d'essayer d'aller chercher dans nous-mêmes, dans ce qu'on a de plus intime parfois, de plus tripal, des choses, des histoires universelles dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître ou tout ou partie de ce qu'ils ont vécu.
La force de la littérature, en fait, hein. C'est donner à voir ce que l'actualité, donner à voir différemment ce que l'actualité nous assène, nous fait rentrer à coups de marteau dans
Exactement.
La tête.
Et c'est un grand luxe d'avoir ce privilège d'écrire pour ça. Mmh. C'est-à-dire, en plus, de façon non formaté, on peut écrire des petits livres encore, des grands livres, du moins qui sont intéressants. Il y a rien de formaté. La littérature a encore cet espace de liberté le plus longtemps possible. Et ça, il faut en user parfois pour transmettre des messages, mais dans lesquels les lecteurs qui ne connaissent pas cette intimité-là peuvent se reconnaître. Et c'est ça qui est intéressant.
Je peux rebondir sur quelque chose.
Ah, mais vous pouvez, bien entendu.
J'aime beaucoup l'idée d'avoir écrit sans...
Peut-être un petit peu plus fort.
Pardon. J'aime beaucoup l'idée d'avoir écrit sur la ZAD sans y avoir été, sans y être allé. Parce que on m'avait posé la question, est-ce que je suis allé là-bas pour écrire le livre? Et en fait, j'y suis allé plusieurs fois quand j'étais jeune. Et au moment d'écrire, j'aurais pas pu l'écrire si j'y étais allé. Si j'avais été là-bas, j'aurais pas pu écrire le livre parce que j'ai tout fait avec des souvenirs et j'ai réécrit, réinventé l'endroit pour me le réapproprier et ça rendait l'écriture beaucoup plus simple et sensible et...
Libre.
Et
t'as raison.
C'est la liberté de la littérature.
Voilà, exactement. Voilà. On se réapproprie une réalité sans être parasité par le fait de savoir si ça correspond
si
absolument au réel, etc. Exactement. J'ai eu ma propre vision, ce qui ma liberté de romancier, en effet, ma propre vision de la ZAD. Encore une fois, je ne suis pas sociologue, il y a eu des choses extrêmement précises qui ont été écrites sur ces communautés alternatives et autres. Ce n'était pas mon sujet, moi j'ai eu ma vision un peu onirique, j'ai créé des personnages, il y a un personnage inventé de toutes pièces, tous les personnages sont inventés, toutes les situations sont inventées, à partir de ce que j'en ai vu, entendu ou imaginé. Et c'est ça qui est, c'est exactement ce que tu dis, et ça permet d'autant mieux se l'approprier finalement.
Voilà, tout à fait. Et alors, je vous vois opiner du chef, Isabelle Amounou. Donc vous décrivez une réalité qui n'est pas encore là, mais qui risque peut-être, malheureusement, de nous tomber dessus rapidement. Les tornades... Quoique, en fait, quand je vous lisais, j'avais l'impression d'écouter les informations, parce que
oui.
Vous parlez de tornades, d'inondations, de réfugiés climatiques, politiques. Donc là, c'est les États-Unis, le colosse au pied d'argile, qui s'effondre. Et par votre littérature, vous transmettez sûrement un message important.
Alors, j'opinais du chef, parce que moi j'ai un problème avec le lieu, c'est-à-dire je suis incapable de décrire un lieu si je n'y suis pas allée.
Oui.
Et que dans mon roman, bien qu'il soit légèrement dystopique, est extrêmement fidèle au lieu.
D'accord.
Par exemple, l'emplacement de la marina, je l'ai cherché au bord de la rivière.
Oui, vous étiez
physiquement, jusqu'à ce que je trouve l'endroit qui me convenait.
D'accord,
en fait.
Mais vous étiez en résidence d'écriture.
J'étais en résidence d'écriture, voilà. Là-bas, voilà, oui. Et j'ai écrit ce livre suite à la résidence d'écriture, mais j'ai passé mon temps à prendre des photos, à prendre connaissance des lieux et des gens aussi, bien sûr, mais j'ai un sens du lieu dont j'aimerais bien m'affranchir, donc c'est pour ça que j'opinais de la tête, parce que j'aimerais bien être comme vous, et réussir à me donner un peu plus de liberté à l'avenir, parce que je me rends compte que je me pose des contraintes énormes en faisant ça.
Est-ce que vous êtes allé au Québec avec cette idée, avec ce thème-là, ou alors c'est une fois sur place, vous avez dit, bon, de quoi je vais parler?
Je suis arrivée au Québec avec une petite idée de ce que j'allais écrire, et en fait j'écris quelque chose de complètement différent, parce qu'il se trouve que lorsque je suis arrivée là-bas, donc ma résidence a duré un mois, donc c'est trop court pour écrire, par contre c'est juste bien pour prendre un maximum d'informations, lire, rencontrer des gens, se créer des contacts là-bas, donc j'y suis retournée bien sûr par la suite, j'ai des amis là-bas maintenant. Donc trop court pour écrire, mais voilà, juste bien pour ce que je voulais en faire, c'est-à-dire accumuler de la documentation et des souvenirs et des images sur ce que j'écrirai par la suite. Et lorsque je suis arrivée là-bas, je terminais une nouvelle qui est parue depuis d'ailleurs dans un ouvrage collectif, et cette nouvelle mettait en scène déjà un couple qui se retrouve au bord d'une rivière en crue. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. Donc il y avait déjà tous les germes du roman, sauf que la rivière, c'était... Alors je viens de Rennes, et notre rivière là-bas s'appelle la Vilaine. Voilà, c'est pas très heureux comme choix, mais c'est comme ça. Et la Vilaine, elle est toute petite. Et lorsque je suis arrivée à Gatineau, donc cette rivière qui sépare le Québec de l'Ontario, comme vous disiez... m'a vraiment créé un choc physique. Parce que j'ai l'habitude des petites rivières et celle-là était monstrueuse à mon sens en fait. Et j'ai décidé tout de suite que finalement j'écrirais quelque chose où la rivière serait un personnage à part entière.
Oui, pardon, je vous... Voilà. Autre chose. Ah non, en fait...
Non, juste.
Oui, voilà, donc la rivière, un personnage à part entière, et donc votre écriture, c'est le choix de vos personnages qui vont s'affronter pour la survie, en fait. Vous auriez pu très bien écrire une histoire d'amour, une histoire d'aventure, une histoire...
Mais c'est une histoire d'amour.
C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'aventure aussi, en marqué. Voilà. Mais vous avez choisi d'écrire une dystopie, en fait, quelque chose qui risquerait bien d'arriver si on n'y prend pas gaffe. Si on n'y fait pas gaffe, pardon.
Oui, alors j'ai choisi la dystopie. Alors je ne voulais pas un roman de science-fiction, c'est-à-dire que je ne voulais pas de... je ne suis pas très intéressée par l'avenir technologique. Donc, ce que je voulais, c'était vraiment travailler le futur très proche des humains.
Oui.
Et j'ai choisi une distance temporelle d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que le roman se passe en 2031, par là. Enfin, voilà. Et moi, je l'ai écrit en 2020 et 21, sur les deux années 2020-2021. Donc, j'avais pris 10 ans. 10 ans qui se réduisent maintenant et on approche de plus en plus de... Et je pensais avoir pris une distance suffisante pour... alors il y avait deux choses. Je voulais travailler sur l'évolution du climat. Et donc j'ai imaginé les pires dérèglements, enfin que je pensais pouvoir imaginer à un horizon de 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des incendies, la rivière déborde sans arrêt, il y a des tornades... et il y a aussi un gros problème social, effectivement, enfin socio-économique, avec plein de réfugiés qui sont des réfugiés politiques et climatiques. Voilà. Et pour moi, c'était vraiment du futur assez éloigné, sauf que très rapidement, en fait. La rivière déborde tous les ans, hein, ça c'est vrai, mais ils ont été victimes de tornades, le Québec a brûlé peu de temps après, et tout ce que j'avais imaginé donc comme dérèglement climatique à horizon de 10 ans s'est produit dans les deux ans qui ont suivi finalement. Voilà. Donc pour ça c'était raté, enfin raté ou pas, mais l'aspect dystopique finalement était extrêmement réaliste.
Ouais.
Et l'autre chose que je voulais mettre en scène, et celui-là j'espère qu'il ne se produira pas dans les deux ans qui viennent, c'est l'effondrement des États-Unis pour des raisons à la fois écologiques et politiques. J'ai écrit ce roman au moment des élections, la première version au moment des élections américaines, et c'était très inquiétant, puisque en fait, dans tous les cas, quel que soit le camp victorieux, on nous prédisait une guerre civile en fait aux États-Unis. Donc c'était très inquiétant, et pour conjurer l'inquiétude, il n'y a rien de tel que d'écrire dessus finalement, en exagérant un peu les choses, certes. Donc effectivement, j'avais besoin de cette projection à quelques années pour que ça puisse se produire tout simplement dans le roman.
D'accord.
Donc c'était les deux choix qui ont guidé la dystopie.
Oui, mais une dystopie malheureusement bien peu lointaine.
Bien peu lointaine.
Je ne sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. Alors, et donc Philippe Lafitte, pour votre roman Périphérie, de quelle page blanche êtes-vous parti pour nous offrir ce roman?
Un peu comme
très noir et très lumineux en même temps.
Voilà, tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, moi je vois beaucoup de points communs entre chacun. Pour le point de départ, je dirais que c'est un mélange de documentation au sens du réel, mais aussi d'imagination, parce que c'est vraiment un roman. Mais en revanche, le camp de Rome existait. Et je passe pour la petite histoire qui est devenue en fait l'élément déclencheur. Je passais devant en allant travailler, je passais en moto devant, je sais pas, j'ai dû passer devant 200 ou 300 fois, et je voyais ce clan qui était relégué comme souvent, les clans de gens un peu marginaux sont relégués aux alentours, donc à la périphérie des grandes villes, comme ça c'est un peu moins
visible.
Comme ça on a l'impression que le centre-ville est parfait, mais dès qu'on gratte un peu, on se rend compte que quand même tout est relégué sur les bords. Et donc je voyais ce clan qui était installé vraiment comme ça sur le bord d'une voie express, sans aucune commodité, il n'y a pas d'eau courante, etc., pas d'électricité évidemment. Et puis je voyais surtout ce clan grossir de plus en plus. Donc je me disais, d'un côté, ça grossit, donc on rejoint un peu cette idée aussi des réfugiés qui, là, sont pas forcément climatiques, mais pour d'autres raisons. Et aussi, je voyais bien que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, hein, je pointe personne de particulier, mais je voyais bien que ça grossissait et que les pouvoirs publics font pas grand-chose. Hein. En particulier, d'autant plus si ce sont des Roms, qui est vraiment la marge absolue en Europe, en tout cas.
Ils sont pourtant romains, donc européens.
Ils sont romains, bien sûr, et puis les Roms, si on regarde un peu dans l'histoire, ils sont installés ou implantés en Europe depuis le XIIIe siècle, donc c'est quand même des gens, c'est des citoyens européens depuis des lustres, mais ils font partie de ces gens qui sont des nomades, donc ça serait encore une autre chose à développer, mais toujours est-il que la marginalité est restée, se développe, se nourrit aussi d'elle-même, hein, puisque c'est aussi des gens qui choisissent leur marginalité d'une certaine manière. Donc il y avait tout ce contexte de départ. Et puis je me suis dit, à force de les voir comme ça, j'ai fini par imaginer, étant romancier avant tout, hein, moi je ne suis pas ni journaliste ni essayiste, je me suis dit, je vais essayer de trouver quand même une histoire. Et puis il y a eu des éléments comme ça qui m'ont nourri. Et j'ai mis en scène des personnages, donc en particulier le premier qui est Virgile, qui est donc le jeune Rome de 20 ans, qui est quelqu'un de très individualiste. Donc déjà, c'est déjà presque un coup de canif dans le contrat des communautés Roms, qui sont en général très soudées. Comme souvent, les communautés précaires se referment sur elles-mêmes pour se protéger d'une certaine manière. Lui fait partie justement des électrons libres qu'on retrouve aussi dans beaucoup de communautés, qui sont ceux qui décident, coûte que coûte, de s'affranchir de leur communauté ou de leur vie, parce qu'ils aspirent à autre chose. Et c'est en ça que je parlais d'échapper au déterminisme social. Et on retrouve ça pour les trois personnages. Oui. L'autre qui est un peu son adversaire, si on parle de combat, puisqu'on parlait aussi un peu de conflit et de combat depuis tout à l'heure. Son adversaire s'est nourri, lui c'est un dealer. Donc lui aussi, d'une certaine manière, il cherche à s'affranchir de sa condition, même si c'est par des moyens illégaux. Lui aussi a envie de réussir. Là, il y a vraiment des réussites individuelles, donc c'est aussi intéressant de se dire que même dans les marges, on peut retrouver parfois des schémas du libéralisme, des choses comme ça, des gens qui ont envie de faire du business et de devenir des super entrepreneurs.
À tout prix, quoi.
Mais des super entrepreneurs illégaux, mais peu importe, ce qui compte, c'est d'être des entrepreneurs. Bon, ça, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans le roman, mais ça, c'est pour la parenthèse. Et également Yasmine, qui est la sœur donc de Nouri, qui elle aussi a décidé et a la volonté vraiment de s'affranchir d'une condition féminine qui est vraiment très close, là, pour le coup, et qui est accentuée par le pouvoir qu'a son frère, qui est le frère aîné, et qui a vraiment un pouvoir sur la famille. Donc les trois personnages sont très différents. Puisque c'est un roman, j'ai fait en sorte qu'ils se rencontrent à un moment donné, pour que ça crée aussi une sorte d'électrochoc ou d'étincelle romanesque. Mais les trois ont un point commun, c'est que tous les trois, coûte que coûte, veulent s'affranchir de leurs conditions sociales. Et puis il y a Léna qui est un quatrième personnage qui est un peu moins important, mais qui elle quand même représente ce que Virgile a laissé au pays, donc en Roumanie. Elle, pour diverses raisons, elle n'a pas pu venir. Mais donc c'est une sorte d'écho à ce qu'était Virgile quand il habitait donc en Roumanie. Et j'en ai fait donc une histoire de destin comme ça qui se rencontre en ayant chacun des motifs et des motivations différentes, mais ils vont finir par se rencontrer. Et dans ce lieu qui est effectivement le lieu de ce que j'ai appelé la périphérie, mais c'est aussi un peu une sorte de no man's land paradoxal, puisque quand on parle de no man's land, c'est censé être un endroit où il n'y a personne. Et quand on va un peu en banlieue, et surtout cette banlieue qui n'est ni la banlieue pavillonnaire, ni la banlieue des tours, c'est une sorte de no man's land, de zone intermédiaire, qui sont les voies express, les piliers de périphérique, etc. Ce no man's land est vraiment extrêmement peuplé. Quoi. Il y a des gens partout, des Roms, ça peut être des réfugiés aussi, il y a vraiment des gens partout. Donc c'est aussi ce paradoxe que j'ai voulu souligner. Et effectivement, il va y avoir ces rencontres. Alors elles sont conflictuelles, mais ça fait partie aussi de la dimension romanesque, mais aussi de la réalité. c'est qu'on n'est pas dans le monde de Disneyland. Là, pour le coup, c'est, les gens s'affrontent s'ils ont besoin. Ils se confrontent à des difficultés qui peuvent être sociales, mais qui sont aussi des confrontations de territoire, tout simplement.
Oui, d'une violence extrême, en fait.
Extrême, je ne sais pas, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir relativement édulcoré ce qui pourrait être possible. Bon, on va dire qu'il y a des règlements de compte, puisque les deux personnages principaux se empiètent chacun sur le territoire de l'autre. Donc, on peut effectivement supposer qu'il va y avoir des conflits. Moi, de manière personnelle, je ne trouve pas ça ultra violent. Je trouve ça juste violent, quoi. Mais on m'a fait remarquer plusieurs fois que c'était très très violent.
Non, je dirais plutôt noir. On a l'impression que
oui, l'écriture,
y a une chape de plomb sur eux et qu'ils vont pas s'en sortir, quoi.
Oui et non, de mon point de vue, puisque Virgile passe son temps quand même à vouloir s'en sortir.
On n'en dira pas beaucoup plus.
Voilà, mais il cherche quand même à s'en sortir. Nourri, lui, il est dans son business, donc d'une certaine manière, il est en train de s'en sortir d'une manière illégale,
mais il essaie.
Mais son business, comme on dit, est florissant quand même, malgré tous les risques que ça comporte. Et celle qui a aussi beaucoup d'espoir, même si pour l'instant elle est ancrée dans son territoire dont elle ne peut pas sortir, c'est Yasmine.
Oui.
Sans non plus dévoiler quoi que ce soit, elle est quand même portée par une énergie et une volonté qui fait que normalement, elle est censée échapper à l'obscurité, si on peut dire.
Oui,
donc les trois sont, pour moi, c'est des gens qui sont effectivement dans un univers assez difficile, mais ils ont tous les trois cette volonté très forte de s'en sortir. Alors évidemment avec des moyens qui ne sont pas toujours légaux, mais ça c'est un peu c'est la vie et les circonstances qui veulent ça.
Oui, en effet. Alors, avec toutes ces choses très intelligentes, il est difficile de rebondir. Mais je vais vous laisser la parole, parce que je suis sûre que vous avez des questions à poser à nos auteurs.
Ah, excusez-moi, alors, pendant que vous posez les premières questions, moi je vais aller m'absenter. Je vais aller aux toilettes, tout simplement.
Ah oui.
Et comme ça, profitez-en pour poser des questions aux autres.
Voilà.
C'est par là. À tout de suite.
Donc, si vous avez des questions pour rebondir sur ce que... Oui.
Pas forcément une question, mais c'est pour... je viens de partir, mais pour rebondir sur ce que disait Philippe Lafitte. Tu parlais de chape de plomb, un peu.
Oui.
Sur les personnages, et pas que dans Périphérie, mais il y a une espèce de... je pense un peu à tous les romans de la sélection, mais il y a une espèce d'inéluctabilité, un peu à la tragédie grecque, quoi. Enfin, un peu comme si c'était pas possible d'échapper à ce qui va se passer. Enfin, c'est que, sans dévoiler vraiment la fin des romans, mais qu'il y a tout ce que font les personnages et en même temps, l'histoire les rattrape toujours. J'ai l'impression que j'ai eue dans les romans qu'il y avait de la sélection.
Est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que, par exemple, Isabelle, est-ce que l'histoire nous rattrape toujours? Est-ce qu'ils sont rattrapés par... vos personnages sont-ils rattrapés par leur histoire, justement?
Certains d'entre eux sont rattrapés par leur histoire, mais d'autres, et en particulier l'héroïne, finalement, ne s'en sort pas si mal que ça. Mais je pense, de manière générale, je pense qu'une des raisons de cette écriture hyper noire, c'est qu'on vit une époque qui est assez anxiogène. Quoi. Donc, pour ce qui concerne la dystopie, alors là, on a deux vraies dystopies, du coup, je pense, c'est le livre de Fanny et le mien, n'a jamais été aussi florissante.
Oui,
c'est parce que les gens sont inquiets, donc cette inquiétude se ressent. Avant, la dystopie était plutôt du côté de la science-fiction.
Tout à fait.
Mais maintenant, il y a plein de gens qui s'emparent de la dystopie pour...
Maintenant, on la trouve dans la littérature blanche.
Voilà, c'est ça.
En opposition à la littérature noire. Et la dystopie, peut-être qu'il va falloir avoir après littérature noire, littérature blanche et littérature dystopique. On en vient vraiment, c'est vrai, à une littérature très, de plus en plus... noir qui fait...
Des gens comme Philippe Claudel, par exemple, son dernier roman, c'est une dystopie. Enfin, il y en a plein comme ça, d'auteurs assez classiques, finalement.
Mais on en a besoin.
Emmanuel Ruben aussi.
Oui.
Mais on a déjà... C'était intéressant qu'on se retrouve là avec Isabelle. On a déjà été rassemblés il y a un an pile à Montélimar, au Festival Les Cafés Littéraires. Et je trouvais intéressant parce que nos deux dystopies ont assez peu de choses en commun, sauf ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de la grande proximité et de la grande probabilité. En tout cas, voilà, ni l'une ni l'autre, on a fait des romans dystopiques avec des robots, des trucs de dingue, des vaisseaux, des technologies incroyables. On est vraiment chacune ancrée dans le réel et vraiment toutes les deux avec... on sent chez elle, comme dans Les Clés du couloir, une inquiétude très forte de l'actualité de maintenant qu'on sent pouvoir dévier assez rapidement sur les sujets sur lesquels on écrit.
Mais votre roman ainsi que celui d'Isabelle m'ont fait penser à La Servante écarlate. Au départ, c'est un roman, mais on connaît plus la série. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Servante écarlate dedans. Est-ce que vous avez écrit en y pensant, ou alors c'est une fois que c'était fait là?
C'est vrai qu'un peu aussi chez Isabelle. Non, oui. Non, pas du tout. Il y a énormément de proximité, mais pour me déculpabiliser, je ne connaissais même pas. Je connaissais vaguement le nom de Margaret Atwood. Donc heureusement, je n'avais pas lu La Servante écarlate, sinon je n'aurais pas pu écrire ce livre. J'aurais été tout de suite coincée par la proximité, en tout cas de départ, parce qu'évidemment, après, tout est différent. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument mettre une phrase d'elle en exergue dans le livre, pour montrer que j'étais
on peut la lire, peut-être.
À l'aise avec... que j'étais à l'aise avec le parallélisme possible. Et finalement, ce qui me plaît aussi dans cette proximité, c'est le fait qu'on écrit tous sur la même chose.
Oui.
Enfin, des écrivains qui,
bah, de toute façon,
qui
oui.
sortent un sujet ou une émotion ou une écriture complètement nouvelle, c'est très très rare. Donc on parle tous d'amour, de filiation, de transmission,
vie.
D'apprentissage, d'angoisse du réel.
De mort.
Et après, le vrai truc intéressant, c'est... comment on l'écrit, avec quel style, avec quel point de vue, selon quel axe. Et voilà, la phrase de Margaret, c'est « Mais si c'est une histoire, même dans ma tête, il faut que je la raconte à quelqu'un. On ne se raconte pas une histoire seulement à soi-même. Il y a toujours un autre, même quand il n'y a personne. » Et quand je suis tombée sur cette phrase... Enfin, c'est incroyable, j'avais vraiment l'impression qu'elle l'avait écrite
pour vous,
pour Petra, parce que c'est exactement ce qu'elle fait. Elle croit qu'elle est seule, elle écrit à quelqu'un qui ne lui répond pas, et donc elle se dit, mais en fait, à un moment, elle lui dit d'ailleurs à l'homme, elle lui dit, de toute façon, je sais bien que j'écris toute seule, que j'écris comme dans un journal intime, mais je me fais croire que j'écris à quelqu'un, que je m'adresse à quelqu'un parce que ça m'aide pour tenir le coup. Et donc cette phrase de La Servante écarlate collait pile.
Ouais.
Voilà.
Très bien. Eh bien, je n'ai pas forcément une question bien précise, mais si... oui, Françoise.
Alors, j'ai l'impression qu'un point commun entre tous les romans, c'est l'idée d'une frontière. Une frontière entre des lieux, et que cette frontière crée une distance, hein, une distance, que ce soit autour du périphérique, ça. Et est-ce que en pointant cette notion de distance entre des lieux qui ont l'air d'être empêchés de toute communication, est-ce que vous avez donné à votre roman quelque chose de militant? Est-ce que vous dites ça pour éveiller
pour éveiller les consciences, pour susciter est-ce politique en fait, dans le sens noble du terme?
Oui, je pense que c'est forcément politique, mais on n'est
pas... Je n'ai pas dit politique, j'ai dit militant.
Oui, mais alors voilà, on n'est pas...
j'ai dit politique.
Oui, mais le politique et le militant se rapprochent comme c'est... Mais je dirais qu'on n'a pas besoin forcément d'être militant pour tenir un discours qui soit politique. Ça peut être une forme de militantisme.
Juste
c'est juste l'écriture qui en soi est déjà un acte politique, mais sans être forcément militant affilié à quelque chose. C'est plus ouvrir effectivement des consciences, ou en tout cas faire tout simplement découvrir une thématique donnée et des personnages et leur manière de se comporter dans le monde, c'est déjà en soi, c'est même pas un message, c'est comme ça, quoi. Donc après, les lecteurs et les lectrices, ils en tirent les émotions ou les conclusions qui s'imposent à eux-mêmes. Quoi.
De toute façon, je pense qu'un livre doit poser des questions, et c'est au lecteur de voir s'il a ses propres réponses, mais je pense pas qu'un livre donne des réponses, je pense qu'il pose beaucoup de questions.
Oui, c'est ça.
Il y a sûrement autre chose qui rassemble tous les livres, c'est justement ce thème de la résistance, parce que sans connaître bien les livres des trois messieurs, j'ai l'impression qu'il y a en commun cet esprit de résistance, oui. Que ce soit pour accéder à un territoire inconnu, ou entre des communautés, ou entre deux versants.
Il y a des volontés, en tout cas, il me semble, dans tous les personnages et les histoires que j'ai entendues. Il n'y a pas de fatalisme, il me semble, et il n'y a pas de résignation.
Oui, en fait,
c'est vraiment plutôt des, quand je disais des combats, une forme de vitalité.
Excusez-moi, je vous ai coupé. Mais chacun prend sa place, en fait. La place qu'il croit être la sienne, qu'il pense être la sienne, et ce qui permet, c'est vrai, de faire... je vous avoue que quand on fait le choix des romans, on est tous toujours un peu à couteau tiré parce que est-ce que lui, ce roman, est-ce qu'il va bien dans la série de la place, du lieu, de l'endroit, et c'est ça qui fait en fait que vous êtes réunis, c'est parce que vous parlez tous d'un lieu, d'un endroit, d'une place, d'un lieu dans lequel on va pouvoir vivre, naître, mourir. Et il y a ce
même quand l'endroit n'existe pas.
Même quand l'endroit n'existe pas, oui. Voilà, c'est encore plus fascinant quand l'endroit n'existe pas.
Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en rapprochant les livres des tragédies ou de l'inéluctable. Malgré tout, même si c'est très très noir au départ, on voit tous que les personnages ils luttent et que finalement ils accèdent tous à une espèce de lumière ou de résolution.
Il y a toujours une lueur d'espoir quand même, moi je trouve.
Oui, heureusement.
Parce que trop optimiste, on débouche sur une lueur d'espoir.
Oui.
Non, mais l'idée, c'est vraiment de poser des questions, de donner des pistes, de donner des clés, pourquoi pas, mais en tout cas, sans être forcément manichéen ou dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Oui. Moi, je pensais que la ZAD puisse être remise en question sous certains aspects, en tout cas qu'on puisse en débattre. L'idée, c'est d'ouvrir le débat, de créer effectivement de l'espace, et ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être de conjuguer certaines angoisses, puisqu'effectivement l'actualité est assez anxiogène, en apportant notre petite pierre à l'édifice, et en se disant, avoir prise, même à travers des livres, sur le réel, ça finalement, ça rassure un peu, et ça donne l'impression d'être un peu utile, au-delà de la fiction, qui est, j'espère, agréable, mais d'être un peu utile à la cause, en ouvrant, effectivement, moi, ce livre, je l'ai envoyé à des journalistes, tout service de presse, dont toutes les maisons d'édition, on envoie à des journalistes. Des journalistes qui me disaient « Moi, je vais le lire parce que je t'aime bien ou et parce que je te suis, mais franchement, la ZAD. » Et j'étais content parce qu'après l'avoir lu, je ne dis pas que je les avais convaincus sur telle ou telle chose, mais au moins, je les avais fait un petit peu réfléchir, et j'imagine que c'est le cas de nous tous ici, c'est d'avoir au moins cette petite, avec notre envie d'écrire, l'envie de faire un peu bouger les lignes ou d'un petit peu remuer les gens ou de les bousculer un peu dans leur certitude.
Oui, voilà. Casser un peu aussi les préjugés. Parce voilà. Que moi, j'ai eu un peu les mêmes réactions de certaines personnes, et dont des journalistes, que je ne nommerai pas. Mais effectivement, la première réaction avant même de lire, en voyant un peu le résumé de presse de la maison d'édition, c'est « Ouh là là, oui, là, c'est les Roms. D'un seul coup, c'est la marginalité absolue. » Et moi, il s'avère que j'ai choisi les Roms, mais ça aurait pu être d'autres personnes, d'autres communautés. Et moi, ce que j'ai essayé de faire passer dans tout ça, c'est aussi de l'humanité. On en est tous là. C'est d'essayer de montrer que, quelles que soient les circonstances, les lieux et la manière dont les gens se confrontent aussi, ils ne font pas que ça. Et ils ont évidemment tous une énorme part d'humanité. Et je dirais même que c'est peut-être dans les situations les plus difficiles qu'on fait ressortir ou qu'on ressent d'autant plus l'humanité que, je ne sais pas moi... au club Méditerranée. Ok, il y a sûrement une humanité, mais...
On peut écrire une tragédie, je sais pas, au Club Med.
Mais c'est pas la même chose, même. Quand on est dans, confronté à des réalités différentes comme ce qu'on voit, c'est pas un ZAD, c'est pas... Enfin, donc, je pense que l'humanité, elle ressort d'autant plus qu'on est dans des situations du réel, de l'imaginaire aussi, mais qui...
Et un peu extrêmes, qui sont quand même un peu...
Oui, un peu... Elles sont pas forcément poussées, parce que moi, je pense qu'on est dans la réalité, même quand c'est l'imaginaire, et on n'est pas obligé de, d'exagérer les choses pour bien faire comprendre ce qui se passe.
Exactement.
Dans l'idée de casser les préjugés, moi, j'ai dans le roman de Soufiane, le préjugé qu'on peut avoir, c'est justement d'une, dans les civilisations très patriarcales, où justement l'homme a beaucoup d'importance. Et dans son roman, on voit justement que les femmes sont là, qu'elles sont très lumineuses et que leur pouvoir est immense.
C'est immense,
immense. Oui. Et ça, c'est peut-être un préjugé qu'on peut avoir en se disant, bon, elles vont être effacées, elles vont être en dehors de... Et non, elles sont très présentes
Elles sont au centre.
À propos de ça, justement, je ne m'attendais pas à ce que... Je ne pensais pas qu'il y avait ce... Enfin, je pensais pas... J'avais pas ce préjugé-là en tête parce que j'ai grandi avec... Il y a un personnage féminin notamment qui a vraiment existé. J'ai grandi avec certains exemples qui ressemblent énormément à ça. Et surtout, je n'ai pas envie de parler des femmes en un tout monolithique avec celles-ci, elles sont comme ça, celles-ci, elles sont comme ça. Ce qui m'intéressait, c'était de construire des personnages. Et ces personnages ont pu être inspirés ou non. Et donc, elles sont là avec leur force et leur caractère, etc. etc. Et oui, c'est une société qui est patriarcale comme énormément de sociétés. Après, il y a étant donné que c'est dans la ruralité, je ne sais pas si c'est dû à la ruralité, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un pouvoir qui leur est propre, qui passe notamment par la langue. On en parlait hier. Il y a pas mal de choses que j'ai voulu traduire, dans les dialogues, il y a certaines choses que j'ai voulu vraiment traduire, montrer que ça venait d'une autre langue et que ça avait été traduit, et notamment l'ironie. Et je sais que l'ironie, c'est une force, beaucoup de personnages féminins. Ça me marchait très bien et c'est presque quelque chose qui leur est propre.
Dans votre roman, justement, ce sont les femmes qui font bouger les livres.
Ah oui, oui, complètement.
C'est-à-dire qu'il y a une certaine immobilité des hommes, on s'affronte du regard un peu de loin et qu'à un moment, les femmes, on va...
Voilà. Je parlais de préjugés, justement, dans une civilisation occidentale, le préjugé, il est là. Et justement, c'est lumineux dans ce roman de voir cette ouverture et de voir toutes ces générations de femmes qui sont magnifiques.
Oui, qui sont magnifiques, oui. Merci. De très beaux personnages féminins. Voilà.
Je dirais que tous ces romans, romans sont lumineux, chacun à leur manière. Tous le fait qu'ils sont de société ou de futur proche avec en effet une lumière d'espoir, comme ça a été dit. Et je trouve que c'est vraiment ce qui rassemble l'ensemble des livres qu'on nous a offerts ces années.
Talentueux en effet. Merci beaucoup pour votre talent et merci pour votre présence.
C'est pas fini.
Mais ça ne s'arrête pas.
Ça éclaire.
Par rapport à la lumière dont vous parliez, moi j'avais une remarque à faire à Fanny. J'étais très étonnée de voir que ce personnage, on le croit prisonnier au départ, mais quand on lit finalement, on s'aperçoit qu'elle pourrait signer un papier en disant voilà. Je choisis la voie du religieux puisqu'on me le demande et on ouvre la porte et je m'en vais. Et là, je trouvais que le roman prenait toute sa puissance puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, elle est prisonnière parce qu'elle n'a pas eu le choix d'entrer dans cette prison, mais qu'on lui laisse le choix. Et quand elle parle aussi du fait qu'on est très gentil avec elle, on est presque doucereux avec elle, et que ça devient finalement très violent, j'ai trouvé que là, il y a quelque chose de très différent de la servante écarlate, où là, il y a la violence, et elle n'a pas le choix, elle reste, parce qu'elle n'a pas le choix. Or là, c'était très fin de la créer libre, justement.
Oui, en fait je voulais... Bah, déjà, ce personnage de Petra, elle dit depuis le début, j'ai été nulle, j'ai été molle, j'ai pas lutté, j'ai pas milité, etc. Et donc, une fois qu'elle se retrouve emprisonnée, finalement, on se rend compte qu'elle a quand même un axe assez fort, notamment dans cette façon de ne pas vouloir se soumettre. La seule chose qui lui reste, c'est la poésie et les paroles de chansons, et aussi le fait de refuser de signer. Et il y a tout ce questionnement autour de la résistance, c'est-à-dire qu'on peut, faire de la résistance à tout petit moyen, sans être très courageux, mais en tout cas, elle, son courage, c'est de ne pas lâcher. C'est une histoire de dignité, finalement. Elle se refuse à signer ce papier pour sortir. Elle pourrait sortir, mais elle a vraiment le pressentiment que si elle fait ça, elle perd tout, en fait. Et elle dit, si je me retrouve dehors, de toute façon, je vais me retrouver dans une société quasiment pire que là où je suis. Et pour ce qui est des conditions de détention, je disais hier à Lance Lebourg que je voulais absolument... J'ai été beaucoup nourrie par la littérature de Caen, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup lu, pour des histoires familiales, essentiellement, et de passion aussi pour cette littérature-là, cette période-là. Donc en fait, le discours de l'emprisonné, je me suis rendu compte assez vite que je l'avais dans la tête, et que c'était des couches, des feuilles qui s'étaient accumulées comme ça dans mon cerveau, mais que je voulais absolument me détacher de cette littérature-là, par respect d'abord, et ensuite... je savais très bien que je n'allais pas pouvoir faire mieux que ni Samprin, ni Charlotte Delbault, ni voilà. Et donc j'ai créé ce camp qui est effectivement très douillet, bizarrement. On a chaud, on mange bien. Et toute cette voix, à un moment je parle du elle cite d'une certaine façon le serpent du livre de la jungle, hein, et confiance. Je voulais montrer aussi que la violence psychologique, elle peut être très... très doucereuse, ouais, et très maltraitante et vicieuse, surtout. Elle est extrêmement vicieuse, cette violence-là. Donc, voilà.
Et du coup, elle interroge aussi sur la réalité qu'on vit en ce moment.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Je vous invite à
à boire.
Ça, c'est bien.
Ça serait parler.
Voilà. C'est lumineux.